Bonjour à tous. Je suis content d'être parmi vous, mais même si je me dis que je... Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu... tu as choisi de venir et de proposer d'apporter le message aussi. Je suis vraiment reconnaissant d'être là. Colin m'avait suggéré de donner aussi un mot de témoignage. De ce qui s'était passé dans ma vie depuis que je suis parti de Sonora. Et moi, j'aimerais, c'est moi qui ai lu le témoignage parce que moi, je pleurais, je n'y arrivais pas. Et en fait, ce moment de baptême, j'avais vraiment compris que Jésus était mon sauveur, mais je n'avais absolument pas compris le sens que ça voulait dire que Jésus devait devenir mon Seigneur. Qu'il devait régner dans ma vie, devenir la priorité de ma vie. Et du coup, ça, je suis passé à côté de beaucoup de choses et j'ai continué à vivre une vie chrétienne, mais un peu spéciale, on va dire. Et cette vie chrétienne un peu spéciale m'a poussé à m'éloigner complètement de Dieu dans l'année peut-être 2008-2009, je dirais, où vous n'avez pas dû me voir beaucoup à l'église. Mais où j'ai essayé de rechercher mon plaisir dans les choses qui ne me l'avaient pas apporté auparavant. Et ça m'a amené au désespoir et au suicide aussi. Et au moment où tout semblait perdu pour moi, c'est là que Christ a commencé à agir dans ma vie. Parce que j'avais plus la force de lutter par moi-même. Et là, j'ai pu lui laisser les rênes de ma vie, et ça a tout changé. Un an après, il a permis que je fasse l'IBG, c'est l'Institut Biblique de Genève. Et c'est là que j'ai rencontré ma femme, d'ailleurs, je crois que j'ai une photo. Je sais pas. Ah là. Donc, c'est moi. Mathéo, notre aîné. Anna, la petite dernière. Karine, ma femme. Et Lisa. La deuxième. Après l'IBG, du coup, on est parti sur Clermont-Ferrand, où on voulait s'engager aussi dans le projet du feu de Clermont-Ferrand qui commençait. Et c'est là aussi qu'on a découvert pendant 5 années le service dans une église. Et après 5 années, on a réfléchi, on s'est posé on avait le désir de servir dans une église où il y avait plus de besoins que la nôtre. Et du coup, Brad Dixon nous a présenté différents projets, notamment dans le sud, et un projet en Normandie, et c'était pas notre premier choix. Je disais à ma femme, je préférerais partir en Afrique qu'en Normandie, mais j'avais pas spécialement envie de partir en Afrique non plus, Mais Dieu avait un autre projet et il a fait en sorte que les circonstances nous poussent à nous intéresser à la Normandie. Et quand on a visité, on a eu tous les deux à cœur de continuer. C'était pour le projet d'un mi-temps dans un centre de vacances, ça nous faisait un peu peur. Le cahier des charges, il nous correspondait pas vraiment, mais on s'est dit on va essayer. On s'est dit pourquoi pas continuer dans le cadre d'un deuxième cycle IBG, c'est un stage de 2 mois et de 2 ans. Du coup, nous sommes partis là-bas dans un stage qui a été plutôt pastoral, dans l'église de 40 ans. Alors, je crois que j'ai mis une petite carte. Alors, ça, c'est la Normandie, la Manche, le département que tout le monde situe bien. Comme vous voyez là, vous avez 40 ans qui est... Je ne sais pas s'il y a une... Alors là, vous avez 40 ans. Et il y a plusieurs églises, en fait, qui ont été implantées en réseau par une mission allemande que Rebecca connaît bien. Son père était à Coutances. Il y a Saint-Lô, Avranches et bientôt Cherbourg qui est un projet d'implantation. Et je ne suis pas du tout dans mes notes, donc excusez-moi. Donc... après ces 2 ans de stage, en fait, bien avant même, on a réalisé que s'occuper d'un centre de vacances, c'était pas forcément pour nous. On m'a souvent classé dans la catégorie des manuels, parce que je suis paysagiste, mais je suis pas vraiment le meilleur bricoleur. Mais par contre, on a trouvé notre joie et dans le service de l'église de 40 ans. Et du coup, en début d'année, j'ai succédé du coup à mon formateur, qui lui est parti sur le projet d'implantation d'église à Cherbourg, pendant que moi je reste en place à 40 ans dans l'objectif de s'occuper, de structurer et de développer l'église de 40 ans. Donc, juste que vous voyez à quoi ressemble l'église de 40 ans. Ça, c'était lors de notre dernier culte de famille où il y avait presque une quarantaine de personnes. C'est beaucoup pour notre église. On est vraiment reconnaissants parce que Dieu, il a permis à des familles d'enfants de venir dans cette église et ça a changé toute la dynamique. C'est un peu décousu, mais ça, c'était pendant le culte, à la fois notre installation et à la fois l'envoi de Uwe Hiltrud, mon ancien formateur. Voilà, on voit les enfants à la fin du culte. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Oui, entre les églises, je m'occupe aussi un peu du travail jeunesse. Et ça permet de faire des groupes de jeunes en commun au moins une fois par mois. Ce qui est super, là on était 25 jeunes et suivant les périodes à la campagne, les groupes de jeunes c'est 3 personnes ou 2 personnes et se retrouver une fois par mois ça crée vraiment une bonne dynamique et des bons liens. Voilà, la Manche, changer de point de vue. Il n'y a pas que moi qui recrute pour la Manche, il y a aussi le conseil départemental. Ouais, je voulais juste vous laisser quelques mots pour vous présenter un peu la Manche, mais je suis un peu triste des fois quand je vois le peu d'intérêt aujourd'hui qu'il y a dans nos églises, des fois pour le travail en milieu rural. Juste pour vous donner une petite idée, on est une petite église, on veut rayonner sur un petit territoire, mais qui compte quand même 74 000 habitants. Dans le nord, au-dessus de 40 ans, dans le nord du Cotentin, il y a 2 églises, mais il y a 200 000 habitants, et c'est pour ça qu'il y a un projet d'implantation d'église. C'est vraiment une terre de mission, et on veut donner envie aux uns aux autres à s'intéresser à d'autres horizons. Et si vous voulez recevoir nos nouvelles, venez me donner votre adresse mail à la fin du culte, et on vous les fera passer. On n'en envoie pas souvent. Et voilà. Donc normalement, vous avez commencé à lire le livre des Actes. Je crois que vous avez sauté un chapitre, mais on va lire ensemble Actes 3, les versets 1 à 19. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. On amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfié accourut vers eux au portique appelé au portique de Salomon. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple, « Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous? Comme si c'était notre propre puissance ou notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que nous avons fait arrêter et renier devant Pilate, qui était, lui, d'avis de le relâcher. Mais vous, vous avez renié celui qui était le saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus-Christ qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devrait souffrir. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et on va s'arrêter ici dans nos lectures et je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est vivante, Seigneur. Merci parce que tu veux parler à nos cœurs, tu veux nous amener plus loin avec toi, nous transformer toujours plus à ton image. Je prie de renouveler notre intelligence encore ce matin et de nous faire du bien par ton Saint-Esprit et ta parole. Amen. Et j'aimerais juste faire une petite remarque introductive pour répondre à une première question. Est-ce que tous les chrétiens devraient faire des miracles aujourd'hui? C'est une question que beaucoup se posent, que certains croient en tout cas. Et la première question que j'aimerais poser au livre des Actes, c'est est-ce que tous les chrétiens font des miracles dans le livre des Actes? Et la réponse est assez simple et négative. Dieu a conféré une autorité particulière aux apôtres pour poursuivre l'œuvre de Christ et servir de fondation à l'Église naissante. Juste quelques citations du livre des Actes, mais on voit par exemple juste avant notre texte, dans Actes 2, 42, « La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. » En Actes 4, 33, avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus. Et une grande foule, une grande grâce reposait sur eux. Et on voit par exemple encore Actes 5, 12, beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Et on pourrait prendre beaucoup de versets comme ça dans les Actes qui vont dans ce sens. Dans le livre des Actes, on voit que tous les miracles sont faits par les apôtres ou par des personnes qui ont reçu une imposition des mains des apôtres, par exemple Philippe et Étienne. Mais ces deux cas particuliers sont intimement liés au ministère des apôtres. Donc ce texte, je ne crois pas qu'il nous appelle à guérir tous les malades que nous croisons, mais je crois qu'il nous appelle aussi à apporter des guérisons aussi plus profondes autour de nous, celle du cœur humain aussi qui est incurable. Et ce genre de guérison, je crois qu'il est possible uniquement... il trouve sa source tout le temps dans le cœur de disciples qui sont remplis de compassion et qui veulent continuer ce que Jésus a commencé dans leur vie. Donc, dans le premier point, on voit... Un homme que personne regarde. Verset 1, il était 3 heures de l'après-midi. Lors de la prière, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Déjà, pourquoi se retrouvaient-ils au temple? Il faut probablement remettre en situation avec le verset qui précède dans Actes 2, 47, où il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église n'était pas encore persécutée et elle recevait un bon accueil de la population. Il venait d'avoir 3000 conversions à la Pentecôte et Dieu continuait d'ajouter des nouveaux membres à l'Église. Si bien que pour se retrouver ensemble, pour prier et pour témoigner, il n'y avait pas de meilleur lieu que le temple et pas de meilleurs horaires que les horaires de prière juive. Les juifs à cette époque se réunissaient trois fois par jour au temple pour prier. Et les chrétiens s'étaient, semble-t-il, calqués sur ces horaires. C'était probablement une occasion extrêmement favorable pour témoigner de ce que Christ continuait de faire au travers de l'Église. Et cette histoire va dans ce sens. Au verset 2, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Jésus venait de passer 3 années de son ministère en Israël. Il est presque impossible que cet homme n'ait jamais entendu parler de Jésus et de tous les miracles qu'il faisait. Moi, j'ai du mal à m'imaginer que personne ne s'est jamais arrêté vers lui. Il lui a dit, mais pourquoi tu ne demandes pas qu'on t'amène à Jésus? Peut-être qu'il pourrait faire quelque chose pour toi, quoi. Jésus avait fait le buzz de l'actualité là, pendant tout son ministère, quoi. Et en voyant cette histoire, moi, je pensais à une autre histoire qu'on a dans les évangiles où on a aussi un paralytique et qui est porté par 4 hommes, mais que ces 4 hommes font tout pour l'amener à Jésus. Ils sont prêts à pour atteindre Jésus qui se trouve dans une maison, à monter sur la maison, à découvrir le toit et descendre le paralytique pour qu'il puisse être guéri. Et le miracle se produit. Et cet homme que nous avons vu a lui aussi des porteurs, mais ceux-là n'ont probablement jamais vu l'intérêt de perdre une journée au plus pour l'amener à Jésus. Ces porteurs qui sont probablement des proches ont trouvé plus intéressant de le placer chaque jour aux horaires de grande affluence devant la porte du temple. Ses amis, eux, devaient continuer leur route pour satisfaire ou s'acquitter de leurs devoirs religieux, pendant que cet homme restait continuellement à l'extérieur, privé de relation avec Dieu et privé de relation avec les hommes. Peut-être il aurait bien aimé une fois pouvoir rentrer dans le temple, mais son handicap lui empêchait et lui interdisait d'y entrer. Alors il mendiait, pour ne pas être un trop gros poids aussi pour sa famille. Devant la belle porte, on installait quotidiennement cet homme qui n'avait rien de beau, rien d'attirant. Quel contraste, quelle situation cruelle. Vous imaginez un peu mieux cet homme, la misère de sa situation, la vie humiliante qu'il a pu vivre jusqu'à là. Et au verset 3, voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. En voyant Pierre, il fait la seule chose qu'il a appris à faire et ce qu'il a fait toute sa vie, il mendie. Il a probablement aucune idée de qui sont ces hommes, lui qui voit passer des foules de pèlerins tous les jours. Et son seul objectif, c'est d'inspirer un maximum de pitié pour rapporter un maximum d'argent aussi à sa famille. Et je réfléchissais, mais combien de situations dramatiques, combien de souffrances, d'humiliations ou de misères nous pouvons côtoyer chaque jour. Et je ne parle pas seulement des mendiants que nous croisons. Combien de situations dramatiques nous côtoyons dans notre travail, dans notre voisinage, dans notre famille. Et combien entraîne une réaction de notre part? Combien entraîne une réaction de compassion et d'amour? J'ai vécu une anecdote qui m'a un peu choqué la semaine dernière, à un feu rouge où il y avait un mendiant. Et en fait, il avait un petit chien. Et il est venu vers moi à travers la vitre et il m'a présenté son petit chien pour toucher mon cœur, quoi. Et nos contemporains, ils ont plus d'émotion et ils sont plus généreux pour un petit chien que pour cet homme créé à l'image de Dieu. Et j'espère que l'abondance d'informations qu'on a d'infos, de misère autour de nous. N'endurcis pas notre cœur à ces réalités. Regardons ensemble la réaction des disciples. Un homme que les disciples regardent. Et alors qu'il interpelle les apôtres, comme il devait interpeller des centaines de personnes, il se passe quelque chose d'inhabituel. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et ça, c'est le regard qui change tout. Si souvent nous préférons ne même pas tourner la tête ou nous occuper des affaires, enfin ne pas s'occuper des affaires des autres. Mais les deux apôtres veulent rentrer en contact avec cet homme, les yeux dans les yeux. Cet homme implore la compassion qu'il espère retrouver en monnaie, mais Pierre et Jean ont un regard différent. Ils expriment une autre compassion qui ne s'exprime pas forcément par une pièce donnée. Ils cherchent le contact et ils cherchent à comprendre les vrais besoins de cette personne. Ils cherchent à l'aider avec ce qu'ils ont reçu. Parfois, nous aussi, les personnes qui nécessitent ou qui demandent notre aide n'ont pas forcément conscience de leurs vrais besoins, et il ne faut pas l'oublier. Elles ne sont pas forcément conscientes de ce qu'on peut leur apporter en les aimant, et elles sont encore moins conscientes de ce que Jésus-Christ peut faire dans leur vie. Au verset 5, il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Et j'aimerais juste vous lire une petite citation de Bob Souza, qui décrit tellement bien le sentiment qui se passe dans ce genre de situation. Il dit « Il y a rarement de véritable contact, de rencontre vraie entre un mendiant et ceux qui lui jettent l'obole en passant. Le mendiant donne mauvaise conscience à ceux qui sont mieux lotis que lui, et parfois, cela les pousse à donner quelque chose. Mais personne n'aime avoir mauvaise conscience, et même celui qui donne peut en vouloir un peu aux pauvres de l'avoir troublé. Cela ne facilite pas la rencontre. » On connaît bien ces genres de situations et ces sentiments. Mais cette fois-ci, la réaction est différente. On voit verset 6. « Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il n'y a pas de doute, le miracle est attesté. L'autorité particulière que Jésus a donnée aux apôtres prolonge l'œuvre que Jésus a commencée. Il n'y a aucun doute que le Jésus qui a fait tellement de miracles est encore à l'œuvre aujourd'hui à travers des apôtres. Il y avait besoin justement de cette transition forte entre le maître et ses disciples pour attester de la résurrection et de la puissance de Dieu à l'œuvre dans la vie des disciples. Et j'aimerais m'arrêter juste une minute sur l'expression « au nom du Seigneur Jésus de Nazareth ». Des fois, cette expression se transforme en formule un peu magique ou incantatoire. C'est devenu un peu une sorte de « abracadabra chrétien ». Certains croient que plus on va le dire fort, et plus on a de conviction, et plus ça a de chances de changer les choses, ou on risque d'avoir ce qu'on a demandé, quoi. Alors on dit « au nom du Seigneur Jésus » à la fin de notre prière, et ça va mieux marcher. Mais faire quelque chose au nom du Seigneur Jésus, c'est avant tout agir et demander quelque chose que Jésus aurait demandé. C'est vivre et rechercher aussi sa volonté dans notre vie. Ce n'est pas forcément la solution pour forcer la main de Dieu. Ne l'oublions pas. Et le désir des disciples est de mettre en avant celui qui agit au travers d'eux et de poursuivre, comme j'ai déjà dit, l'œuvre de Christ, que Christ a commencée. Il entra avec eux dans le temple, marchant et sautant et adressant des louanges à Dieu. Il n'y a pas de confusion. Ce boiteux guéri a saisi que ce n'est pas les disciples qui l'ont guéri, mais il adresse toutes ses louanges à Dieu. Cet homme qui n'avait pas eu la chance d'être guéri pendant le ministère terrestre de Jésus l'a été par la prolongation du ministère de Jésus. et par la vie du Saint-Esprit dans les disciples. Et comble de sa joie, pour la première fois de sa vie, il a pu entrer et louer Dieu dans le temple, libéré de son handicap, libéré de ses fardeaux, et on verra plus tard, mais libéré de ses péchés, une libération totale sur tous les points de vue. Dans mon premier point, j'ai commencé à aborder la compassion que Jésus nous appelle à avoir face à la misère et les situations complexes que l'on côtoie. Mais qu'est-ce que je peux faire concrètement? On ne peut pas donner déjà ce qu'on n'a pas reçu. Mais Dieu nous a donné à chacun suffisamment d'amour pour aimer les gens qui nous entourent avec nos limites. Et ça commence des fois juste par un sourire, une prière, un bonjour. Ça peut déjà changer beaucoup de choses dans notre cœur et dans le cœur de l'autre personne. Réaliser qu'on a reçu quelque chose aussi d'infiniment précieux, l'Évangile. L'Évangile capable de nous transformer, mais l'Évangile capable aussi de transformer d'autres. On vit dans un monde où on est saturé par la misère et par les infos et les situations dramatiques que l'on croise, et nous ne devons pas devenir indifférents à tout ça. On ne peut pas éradiquer la misère du monde, mais on peut faire preuve, je pense, davantage de compassion. Comme notre Seigneur Jésus en a eu pendant son ministère, comme les apôtres l'ont poursuivi après, et comme le Saint-Esprit veut nous pousser à agir encore aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à voir ces personnes qui sont autour de nous et que nous pouvons côtoyer sans les voir vraiment, mais qui souffrent réellement. Et je ne parle pas seulement des mendiants, bien sûr. Donnons ce que le Seigneur nous a donné aux personnes qui nous entourent et qui sont dans le besoin. Ça peut être juste une écoute, un encouragement, un regard, une main tendue comme dans ce texte. Ce sera le plus beau témoignage que Jésus est encore vivant aujourd'hui et à l'œuvre pour transformer des vies. Troisièmement, on voit un homme nouveau que tout le monde regarde. Quel changement de situation entre la situation de départ et maintenant. Passer de celui que tout le monde ignore à celui que tout le monde admire. Le misérable devient un magnifique témoin que Dieu utilise pour manifester sa gloire. On voit verset 9. Tout le peuple vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui était arrivé. Quand Dieu agit dans une vie, ça se voit. Là, tout particulièrement, parce que cet homme est passé d'un stade où il était impotent à une super tonicité. Mais je crois que la plus grande transformation aussi, c'est de le voir louer Dieu et témoigner de ce que Dieu a fait pour lui. Lui qui a peut-être passé sa vie à se demander pourquoi Dieu avait permis cette situation, pourquoi il avait permis sa souffrance. Ce même homme manifeste la gloire de Dieu de toutes ses forces. Et je crois que Dieu, quand il agit dans une vie, ça se voit, ça devrait se voir aussi. Verset 11. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple, stupéfait, accourut vers eux au portique, appelé Portique de Salomon. Donc, dans le livre de Luc, Luc a choisi de présenter la vie de Pierre et de Paul en parallèle. C'est une structure qui est suivie. Et les deux font le même type d'action. Tous les deux guérissent un infirme, tous les deux comparaissent devant le Grand Conseil, tous les deux ressuscitent un mort, tous les deux font des miracles un peu étonnants. Et quand on regarde le texte de Actes 14 où Paul fait une guérison un peu semblable à celle de Pierre dans ce passage, il y a beaucoup de similitudes. Donc tous deux s'arrêtent, arrêtent leur regard sur une personne en situation de handicap et la guérissent. Et tous les deux, dans les deux cas, les foules se tournent vers eux Ils veulent les mettre en avant. Ils veulent les élever au milieu des hommes. Et qu'il aurait été facile pour Pierre et Jean de jouir d'un temps de gloire humaine. La Bible nous présente souvent comme des voleurs de gloire un peu. Nous voulons si souvent nous attribuer la gloire qui revient à Dieu seul. Je sais que Mike Evans, souvent, il a tendance à dire que les victoires dans la vie chrétienne sont plus dangereuses que les échecs. Car l'orgueil de se croire capable peut nous amener aussi à chuter. Donc le jour où le Seigneur va nous utiliser, dans différentes occasions, pour faire du bien à des gens, sachons attribuer la gloire à Dieu. Encourageons les autres à tourner leur regard, détourner leur regard de nous pour les tourner vers celui qui transforme les vies. Ce qui nous amène au dernier point, une invitation à tourner nos regards vers celui qui peut tout changer. Verset 12, quand Pierre vit cela, il dit au peuple, « Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé ? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme ? Pardon d'insister, mais pourquoi c'est si difficile pour nous d'attribuer la gloire à Dieu quand il nous donne de faire de bonnes choses ? Comme si c'était par nous-mêmes que nous le servons aujourd'hui. Je pense, vous êtes beaucoup à connaître l'ancien Johan, et je pense que vous savez bien que j'y suis pour rien dans ma transformation. Et pourtant, si souvent, je me crois quelqu'un, au lieu d'encourager les autres à détourner leur regard de moi pour les tourner vers Dieu. Je me crois capable de transformer. Donc restons vigilants et j'aimerais vraiment que vous gardiez cette image de faire attention à ne pas devenir des voleurs de gloire. Verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus. Ce que dit ce verset, c'est que le Dieu de toute la Bible a choisi de manifester sa gloire au travers de Jésus. Le Dieu de toute la Bible a choisi de manifester sa gloire, la gloire de Jésus au travers de chacune de nos vies aujourd'hui, par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Nous devons manifester la gloire de Jésus-Christ, c'est le but de notre vie. On n'est pas appelé à guérir tout le monde, mais on est tous appelés à laisser Dieu agir en nous pour sa gloire et non pour notre confort. C'est vraiment une source de réaliser ça. Moi, je trouve que c'est vraiment une source de motivation pour prier Dieu, de dire, mais utilise-moi avec mes petites ressources pour venir en aide à ceux qui m'entourent. Et donne-moi de te glorifier par ma simple vie chrétienne. Verset 13, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de tous de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était, lui, d'avis de le relâcher. Mais vous, vous avez renié celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Chose étonnante, Dieu est en train de se révéler à des hommes coupables. Les mêmes juifs qui avaient fait mourir Jésus, le prince de la vie. Les mêmes qui avaient renié le Dieu saint et juste pour accorder la grâce à un meurtrier. Ces hommes infiniment misérables et coupables devant Dieu à cause de leur faute sont en train de se faire expliquer le plan de Dieu qui peut leur permettre d'être sauvés, même le plus coupable. Et si ce matin tu es encore à mille lieues de tout ce que je suis en train de dire, mais prends le temps d'écouter, parce que ce qui suit est aussi pour toi et peut tout changer dans ta vie. Au verset 16, il nous dit « Par la foi en son nom qu'il a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. » C'est la foi en Jésus, seul qui est capable de transformer la vie d'un homme. Même s'il n'avait pas eu forcément un grand enseignement sur Jésus, il a cru probablement avec une foi imparfaite, mais dans une personne infiniment puissante. Et ça l'a transformé. Parfois, des fois, on peut avoir une grande foi dans des choses infiniment faibles, dans nos propres forces. Et ce n'est pas source de sécurité, mais une petite foi en Dieu est infiniment puissante pour nous transformer. Verset 17, « Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devrait souffrir. » Ils ont agi par ignorance, mais pas Dieu. On agit souvent sans savoir et on fait pas mal d'erreurs, mais pas Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a librement fait le choix de mourir pour sauver des hommes qui méritaient la condamnation. Il avait quand même participé à la mort de Jésus. Et pourtant, l'appel à la grâce est aussi pour eux. Et elle est aussi pour toi. Ouais. Verset 19, « Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » La foi en Jésus change tout, même si elle est encore faible. Car lui est infiniment puissant pour nous transformer et nous rendre capables de changer de direction. Jésus peut pardonner et transformer n'importe quel misérable en enfant de Dieu. Oh combien ce miracle est infiniment plus glorieux et nous invite à rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans nos vies. Il nous invite à persévérer dans ce sens. Alors restons attentifs aux situations qui sont autour de nous, aux besoins de ceux qui nous entourent. Nous sommes sauvés pour marcher aussi dans les traces de Jésus, pour prolonger aussi son ministère terrestre. Et peut-être que ce matin, vous avez pensé à l'une ou l'autre situation concrète dans votre vie. Que le Seigneur nous assiste dans cette mission qu'il nous a lancée d'être ses témoins et qu'il nous aide à aimer les autres comme lui-même les aurait aimés du temps de son pèlerinage terrestre. Son évangile nous transforme dans ce but. Et j'aimerais prier encore. Seigneur, merci parce que tu as fait un don immense en nous envoyant Jésus-Christ alors qu'on était infiniment coupables. Merci de l'amour, de la compassion que tu as eu constamment du temps de ton pèlerinage terrestre envers tous les hommes, Seigneur. Merci de la compassion que tu as encore aujourd'hui envers les hommes, Seigneur. Merci aussi de ce privilège énorme que tu donnes à chacun de poursuivre ton œuvre par la vie du Saint-Esprit en nous. Donne-nous d'être de bons témoins de toi. Aide-nous à transformer encore ce qui reste de notre vieille nature et de rester vigilants à ce que tu veux faire dans nos vies, Seigneur. Donne-nous de porter du fruit pour toi, Seigneur. En ton nom, Amen.